Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Voici une émission diffusée sur la chaîne nationale, c'est-à-dire l'ancêtre de France Culture, émission qui donnait la parole à deux musiciens, deux stars, un pianiste et un violoncelliste. Nous sommes en 1963, très longtemps donc avant la fin de l'Union soviétique. Mislav Rostropovitch est le violoncelliste virtuose, qui se définit comme un soldat un peu chauve de l'armée de violoncelle. Samson François est le pianiste et compositeur. L'un et l'autre étaient reçus par Claude Samuel, et les entretiens sont liés bien sûr à la musique par définition, mais en disaient beaucoup sur l'époque. Sur le son aussi, sur la dernière couleur du piano, le jazz. Samson François, compositeur, parlait de cinéma. Samson François en français, Rostropovitch en russe, en traduction simultanée. Voici la tribune de la musique vivante.
Au micro, Claude Samuel, qui propose aux auditeurs de la tribune de la musique vivante de se transporter maintenant au studio Parnasse pour retrouver notre ami le pianiste Samson François. Tout d'abord, il faut que nous remercions beaucoup Samson François d'avoir distrait quelques heures de travail et pendant un bref passage à Paris pour venir à la tribune de la musique vivante, parce que nous savons que vous êtes fort rarement à Paris, vous êtes dans tous les pays du monde et beaucoup aussi dans toute la France. Et lorsque vous êtes à Paris, c'est parce que vous préparez des concerts et des récitals, et puis aussi parce que, ça nous allons parler tout à l'heure, vous êtes aussi compositeur, vous faites beaucoup de choses, autrement dit, vous avez peu de temps, et cependant, vous avez bien voulu venir ici pour nous parler spécialement de la musique contemporaine, et bien nous sommes ravis de cela et nous en remercions beaucoup. Et j'ai dit il y a une seconde que vous étiez compositeur, nous en parlerons, mais je voudrais d'abord vous interroger en tant qu'interprète, très sollicité dans le monde entier, à qui on demande évidemment de toujours jouer des œuvres classiques qui sont les grandes œuvres de notre répertoire et qui finalement ne peut peut-être pas servir autant qu'il le voudrait la musique contemporaine. Que pensez-vous actuellement de la situation du grand pianiste international en face de la musique contemporaine ?
Évidemment, en France, par exemple, en Europe, d'une manière générale, le public d'un interprète préfère évidemment toujours le répertoire traditionnel, c'est-à-dire tout le répertoire romantique. Je crois qu'il y a une raison profonde à ça, en dehors même du côté de la hardiesse, naturellement, des essais de la musique contemporaine. Il y a une raison profonde à ça. C'est que, évidemment, un compositeur, lorsqu'il a du talent, il exprime son époque. Et plus il a du talent, plus il l'exprime exactement. Et il est évident que notre époque n'est pas une époque tellement flatteuse pour nous qui la vivons. Elle est évidemment passionnante, mais elle n'est pas aussi flatteuse que, par exemple, l'époque romantique.
Oui.
Et je crois que lorsque le public va justement entendre de la musique, il préfère avoir l'impression de se retrouver à l'époque romantique plutôt que de retrouver sa propre époque.
Bien sûr. On a dit, non mais ça rejoint peut-être cette constatation, on a dit que la musique au 19e siècle était écrite pour un virtuose, tandis que pour l'interprète, tandis qu'aujourd'hui elle est écrite contre l'interprète. Pensez-vous cela ?
Eh bien, il y a une chose que je reprocherais peut-être à la musique contemporaine, c'est qu'elle ne tient pas compte de l'interprète. Le compositeur veut le faire interpréter malgré lui.
Mais est-ce qu'on n'a pas pensé cela à toutes les époques ?
Non, je ne pense pas. Parce qu'en général, justement, les œuvres étaient en somme dédiées aux interprètes à une certaine époque. Alors, je crois particulièrement à l'époque romantique.
C'est-à-dire que les compositeurs étaient beaucoup plus soucieux de la facilité d'exécution ou du moins de la facilité de communication.
Je crois qu'ils pensaient beaucoup plus à un artiste en particulier lorsqu'ils écrivaient une œuvre.
Tandis que maintenant, les compositeurs écrivent un peu dans leur bureau de travail sans songer à une exécution possible.
Un peu trop objectivé, à mon avis.
Bien sûr. Quand vous interprétez le troisième concerto de Prokofiev que vous jouez souvent, avez-vous l'impression de jouer de la musique contemporaine ?
Non. J'ai l'impression de jouer de la musique classique.
Bon. Alors, de quelle façon entrez-vous dans cette musique contemporaine ou n'entrez-vous pas dans cette musique contemporaine ?
Eh bien, écoutez, je crois que, par exemple, le problème du piano est déjà dépassé. Je crois que le piano est un instrument qui, évidemment, a plus d'un siècle maintenant et que, vraiment, il a été entièrement découvert. Je crois que, vraiment, par exemple, si on doit chercher la dernière couleur qui était trouvée dans le piano, il nous faut penser plutôt au jazz. C'est vraiment le jazz qui nous a apporté la dernière couleur du piano.
Vous ne pensez pas qu'il y a, depuis Debussy, de nombreux compositeurs qui ont enrichi la palette du piano ?
Enrichi, oui. Mais je veux dire, ce n'est pas une nouvelle couleur qu'ils ont apportée.
C'est cela. Ils sont restés dans le fond...
Dans le domaine traditionnel. Dans la même couleur.
Et par contre, dans le jazz, vous voyez quelque chose de nouveau. Je sais que vous connaissez et que vous aimez bien le jazz.
Ça a été une nouvelle couleur, sûrement.
Oui.
Je me souviens, la première fois que j'ai entendu, par exemple, un disque de Fats Waller, ça a été pour moi une révélation au point de vue de la couleur. Je ne parle pas musicalement. Je parle d'une question de nouvelle couleur de l'instrument.
Mais si vous nous dites que le piano a, dans le fond, peu de présent, il a peu trouvé de choses nouvelles, est-ce que ça n'est pas une condamnation non seulement du piano, mais aussi des pianistes? Est-ce que vous ne croyez pas, dans un avenir plus ou moins proche, on verra s'éteindre la race des grands pianistes?
Mais j'en suis persuadé. J'en suis persuadé, je me considère moi-même un peu comme le dernier des Mohicans, vous savez pour ça. Mais c'est vrai, je crois qu'effectivement l'ère des virtuoses fait partie d'une époque et que nous allons maintenant vers une époque où nous aurons sûrement de très grands musiciens, de très grands pianistes, etc., mais non plus cette sorte de monstre sacré que nous avons eu il y a une cinquantaine d'années, je ne crois pas.
Mais aujourd'hui, pour le public, il existe toujours des monstres sacrés.
Ça existera, mais sous une autre forme.
Oui, mais je veux dire, vraiment, en 1962, ce sont quand même les monstres sacrés
qui
ont encore du succès.
Non, mais je veux dire par là que nous allons vers une génération d'artistes, de violonistes, de pianistes, d'exécutants des instruments traditionnels, qui seront des gens qui joueront admirablement de leurs instruments, qui seront sûrement, et qui auront une profonde culture musicale, mais qui ne feront que nous répéter le répertoire traditionnel. Je crois que la création des compositeurs se situera sur une toute autre dimension et sur un autre plan.
Vous ne pensez pas que le virtuose de l'an 2000 aura annexé les sonates de Boulez à son répertoire?
Non, je ne pense pas, non. Mais ceci dit, ça n'a rien contre la musique de Boulez.
Non, bien sûr, non, mais je prends ça comme exemple.
Oui, je ne pense pas, non.
Mais vous ne croyez pas qu'en 1850 ou 40, on pensait aussi que le virtuose n'aurait jamais à son répertoire les œuvres de Schumann parce qu'elles étaient réservées à quelques rares pianistes?
Ah non, pas du tout, c'était la découverte du piano, pensez-vous. C'était neuf.
Donc c'est un problème pour vous assez nouveau?
Absolument.
Mais est-ce que cela vient de la sensibilité du public, des phénomènes musicaux plus généraux, ou bien vraiment ça tient au cas particulier du piano?
Non, je crois que ça tient au cas particulier des instruments traditionnels, tels que le violon, le piano. Regardez par exemple le violon. On dit que par exemple le violon a beaucoup moins de public. Et c'est vrai depuis seulement une vingtaine d'années. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de répertoire quotidien qui est fait par les compositeurs. Naturellement, vous avez quelques grandes œuvres qui ont été écrites par certains grands compositeurs, mais vous n'avez plus une continuité qui permette un renouvellement quotidien du répertoire. Et l'instrument, et le violon par exemple, est un instrument qui est en train de mourir à cause de ça.
Parce qu'il n'y a pas de renouvellement actuel.
Absolument.
Et pourtant, dans le piano, il y a davantage de renouvellement. Les pianistes sont quand même dans ce répertoire traditionnel.
Oui, parce que le piano offre plus de facilité au point de l'écriture.
Oui, mais les pianistes actuellement n'en jouent pas plus pour cela les œuvres actuelles.
Il est très difficile d'imposer une œuvre nouvelle. Moi, par exemple, il m'est arrivé de jouer des concertos en première audition dans divers festivals, etc. Et après, il est très difficile de les faire circuler.
Oui, mais vous ne pensez pas que, justement, c'est là le rôle des grands virtuoses célèbres dans le monde entier d'imposer dans leur programme des œuvres nouvelles?
Vous avez parfaitement raison. Seulement, vous savez, il faut être très prudent parce qu'il ne faut pas tout de même non plus rompre en visière avec un public qui vous réclame une certaine ligne. Je me souviens, par exemple, j'ai joué il y a quelques années les deux élégies de Bartok. Eh bien, j'ai mis 3 ans avant... Vous savez, c'est du premier Bartok, très dur, très du beau piano, c'est-à-dire c'est du très grand piano. Mais j'ai attendu au moins 3 ans avant de trouver le vrai programme dans lequel le mettre. Et si je vous disais que je le mettais immédiatement après les Papillons de Schumann, ça vous paraît une gageure, mais c'était là sa véritable place, parce qu'il ne suffit pas de présenter une œuvre nouvelle, il faut surtout savoir la présenter et la faire goûter.
Oui, et votre public ne vous suivrait pas si vous l'entraîniez trop dans le domaine contemporain?
Je crois que personne ne peut supporter toute une soirée de musique et qu'il entend pour la première fois.
Oui, sûrement.
Même un très grand musicien.
L'oreille a besoin d'un certain confort dans
Absolument.
Une soirée. Oui. Non, mais je crois d'ailleurs qu'on est un peu tous pour les programmes panachés et que les programmes qui sont uniquement des œuvres de découverte sont finalement pas très bons.
Ah, c'est pas
très
possible. Bon, ça dessert la musique.
Oui, mais par exemple, quand vous donnez des récitals, vous mettez quand même rarement au programme de ces récitals des œuvres contemporaines.
Ah, si, j'en ai mis beaucoup. J'ai fait beaucoup de premières auditions.
Oui, vous avez fait des premières auditions, mais oui. Je veux dire, le récital classique que vous donnez régulièrement, que vous donnez avec des œuvres à base d'œuvres de Schumann ou de Chopin, est-ce que vous pensez que pour ce public qui est là, qui n'a pas en musique évolué au-delà de Brahms, par exemple, est-ce que vous pensez que pour ce public, eh bien, vous pouvez essayer des œuvres très nouvelles?
Ah oui, sûrement. Sûrement.
Et comment ce public réagit-il?
Eh bien, justement, alors là, il y a encore un autre problème qui, à mon avis, fait que le public est assez réticent à réagir pour la musique contemporaine. Et je crois que ça provient un peu de la faute des compositeurs, qui ont voulu à toute force, il y a une cinquantaine d'années, faire du nouveau. Vous comprenez? Alors ça a entraîné une réaction dans le public qui font qu'ils ont peur du nouveau. Voyez-vous, regardez par exemple, si on pense au répertoire du théâtre, il y a constamment des pièces nouvelles. Le public, quand il l'aime ou quand il n'aime pas, il dit « je n'aime pas cette pièce » ou « j'aime cette pièce ». Il ne dit pas « je n'aime pas le théâtre contemporain ». Tandis que la majorité du public, quand il va à un concert de musique et qu'il entend de la musique contemporaine, s'il n'aime pas, il ne dira pas « je n'aime pas cette pièce-là » ou ce compositeur. Il dira « je n'aime pas la musique contemporaine ».
Vous ne croyez pas que c'est un défaut d'information d'abord? Parce que le public sait très bien qu'il y a, que Kota Danouille ne ressemble pas à celui d'Ionesco, tandis que le public, à part quelques initiés, pense que la musique contemporaine, c'est un terme générique et que dans le fond, tout ça ressemble beaucoup.
Non, je crois que c'est le fait que justement, Schoenberg a dit « je vais faire du nouveau ». Et ça, on fait forcément du nouveau.
Qu'est-ce que vous Schoenberg n'a jamais dit « je vais faire du nouveau ».
Enfin,
au contraire, il a dit qu'il ne voulait pas faire de nouveau.
Mais ne commencez pas à me battre les citations, vous savez, moi, si je ne vous souviens pas.
Non, et pourtant, d'ailleurs, ce qui est intéressant dans le cas de Schoenberg, c'est qu'il a écrit pas mal d'œuvres pour le piano, mais qui n'intéressent pas les pianistes.
Albert Berg a écrit une sonate qui est assez belle, mais
qui est traditionnelle.
Qui est traditionnelle, elle est même très wagnerienne.
Oui, mais quelles sont les œuvres pour piano de notre époque, alors, nous ne mettons pas Prokofiev, si vous voulez, non, puisque Prokofiev, c'est un traditionnel, qui intéresse les pianistes? Et par quel côté, de quelle façon les intéresse-t-il?
Moi, il y a un compositeur pour lequel j'ai une grande tendresse, c'est Céline Demit. Parce qu'il est de bonne humeur, d'abord. Je crois que c'est très important.
Et c'est bien écrit pour les pianistes?
Ah oui, sûrement.
Bon, moi je vais vous demander autre chose maintenant, parce que nous savons que vous êtes aussi compositeur. Et quand vous êtes compositeur, pensez-vous au pianiste, d'abord?
Vous savez, le concerto que j'ai écrit, ça a été un peu la vengeance du soliste. J'ai voulu faire enfin travailler un peu l'orchestre. Et pendant que le soliste, lui, se repose un peu. C'était un peu ça. Et puis, je l'ai écrit, ça a été un peu une aventure. Vous savez, c'était un peu, je me sentais un peu comme Christophe Colomb à la découverte des Amériques. Et j'écrivais mon journal.
Et c'est une expérience que vous ne regrettez pas?
Non, je me suis beaucoup
amusé.
Et
vous aimeriez la recommencer?
Non, j'ai aucune intention. Vous voyez, je n'ai aucune intention de réécrire pour piano. Ça ne m'amuse pas.
Mais par contre, vous aimeriez écrire pour d'autres instruments?
Ah, bah oui, en ce moment, je suis en train d'écrire pour une musique de film que je suis en train de terminer. Et j'ai choisi une formation assez curieuse qui est piano, xylophone, six violons, deux contrebasses, une clarinette basse, une clarinette, trois trompettes, trois accordéons, un orgue électrique et un xylophone.
Et votre expérience de pianiste vous sert ou vous gêne lorsque vous écrivez pour l'orchestre?
Oh là, vous savez, c'est simplement un trait. Alors, que je fais l'unisson avec tous les xylophones.
Oui, non, mais bien sûr. Non, mais je veux dire, lorsque vous écrivez une partition d'orchestre, est-ce que le fait que vous êtes pianiste vous aide ou vous gêne? Est-ce que vous oubliez, vous êtes quelqu'un d'autre?
Oh oui, complètement, absolument. Complètement.
Vous n'êtes pas hanté, obsédé par le problème
du
piano?
Pas du tout, pas du tout.
Bon. Eh bien, vous avez aussi prononcé le mot cinéma, et je voudrais peut-être, pour que nous terminions cet entretien, parler un peu du cinéma, puisque vous avez une activité dans le cinéma. Et je voudrais que vous nous disiez si cette activité prolonge votre activité de musicien, si vous pensez qu'il y a des rapports qui sont peut-être intéressants à établir entre votre carrière de pianiste et votre amour et votre intérêt pour le cinéma.
Eh bien, je vous dirais que pour moi, mon intérêt pour le cinéma découle tout naturellement de mon instinct de compositeur.
De quelle façon ?
C'est-à-dire que je pense que, justement, je vous disais, je n'ai plus envie d'écrire pour piano, parce que je pense que, tout naturellement, le cinéma est, à mon avis, l'art total de notre époque, l'art réellement qui synthétise vraiment à la fois. Je ne comprends pas, par exemple, que les peintres, à l'heure actuelle, ne s'intéressent pas au cinéma. Par exemple, un compositeur, tout naturellement, doit s'intéresser au cinéma.
Parce que c'est l'art de notre temps.
C'est l'art de notre temps. C'est l'art qui vraiment réunit absolument toutes les conditions des différents arts.
Et je vous pose une question indiscrète.
Et ensuite, le plus intelligible, en plus. Le plus immédiatement intelligible.
Pour le public. Mais est-ce que vous envisageriez d'arrêter votre carrière de musicien pour ne faire que du cinéma?
Ça dépend si mon intérêt de compositeur si j'arrive à me réaliser comme compositeur vraiment d'une manière absolue, à ce moment-là, je pourrais l'envisager. Mais, ceci dit, comme je joue du piano, alors pour mon plaisir, très égoïstement, à ce moment-là, c'est encore autre chose. Vous comprenez, c'est sur un autre
plan.
Bien
sûr, bien sûr. Bon, la question était un peu perfide, c'est-à-dire. Bon, eh bien, peut-être la salle, maintenant, va aussi poser quelques questions. Nous lui donnons la parole. Oui, il y a une question là. Très bien.
Monsieur Sanson-François, qu'est-ce qu'il entend par le non-intérêt des peintres actuels au cinéma? Je ne vois pas en quoi il pourrait s'intéresser au cinéma. Le cinéma s'est intéressé à des peintres comme Renoir ou a posteriori, mais comment les peintres pourraient-ils s'intéresser au cinéma actuellement, d'après vous?
Bien, je pense que par exemple dans le cinéma en couleur, imaginez par exemple des plans vus par un œil de peintre. Ça serait tout à fait autre chose que
par un technicien. Mais justement, Renoir s'est souvenu que son père était un grand peintre dans ses cinémas en couleur, dans ses films.
Non, mais j'imagine que si des peintres, par exemple, comme Van Gogh ou Gauguin, enfin, qui ont fait vraiment une révolution qui était tout à fait actuelle, vivaient dans notre temps, je suis persuadé qu'ils s'intéresseraient au cinéma, justement, parce qu'ils auraient tout un nouveau champ d'expérience et une nouvelle découverte à faire.
C'est-à-dire qu'on peut penser que leur expression aurait été cinématographique.
Oui, absolument.
Oui, mais je crois que le cinéma, c'est un art, c'est entendu, mais c'est surtout une technique, et les techniciens auraient bien vite fait d'effrayer les individualistes que sont les peintres.
Oh, je ne crois pas, non.
Question difficile à résoudre, je crois. Oui, une autre question devant.
Je crois qu'on peut répondre à monsieur qu'il y a plusieurs peintres qui ont totalement ou partiellement abandonné la peinture pour faire du cinéma, qui ont appris les techniques du cinéma et qui ne peignent plus que sur l'écran, et soit en noir, soit en couleur.
Qui, par exemple?
Je peux citer trois noms, Lapoujade, Kamler, Patrice.
Bon.
Ce sont trois messieurs qui ne font plus que ça.
Et qui étaient peintres. Y a-t-il d'autres questions? Oui, là-bas à droite.
Est-ce que vous ne pensez pas que la musique au cinéma est un art secondaire, c'est-à-dire qu'elle... C'est pas de la vraie musique en tant qu'elle sert à illustrer une image et qu'on l'entend pas toujours. Enfin, on l'entend mais on la remarque pas.
La musique au cinéma ne doit pas être un effet de musique imitative. La musique n'est pas de souligner les différents effets, mais d'interpréter l'image librement.
Qui prolonge l'image.
Oui, exactement.
C'était pas une musique descriptive.
Pas du tout.
Ni émotive.
Non. Enfin, si, elle peut être émotive, oui.
Bon, eh bien, écoutez, je crois que nous pourrions encore continuer longtemps parce que je suis certain qu'il y a d'autres questions, mais il est un peu tard. Et je remercie infiniment Sanson-François d'avoir bien voulu répondre aujourd'hui à nos questions. C'était Sanson-François qui nous parlait de la musique contemporaine au cours d'une émission enregistrée au studio Parnasse. Nous allons maintenant quitter ce studio pour retrouver un très grand violoncelliste, le violoncelliste soviétique Mstislav Rostropovitch. Si j'ai déjà dans ma vie regretté, et souvent regretté, de ne pas parler russe, c'est bien aujourd'hui. Parce que j'ai en face de moi le grand violoncelliste soviétique Mstislav Rostropovitch, qui au cours d'un bref passage à Paris, a accepté de venir dire quelques mots au micro de la tribune de la musique vivante. D'abord je l'en remercie, et maintenant je vais le passer au supplice de la question. Et je vais lui demander tout d'abord... grâce à l'obligeance d'une interprète qui est à mes côtés, je vais lui demander de nous parler un peu du répertoire pour violoncelle et du répertoire actuel, puisque nous parlons aujourd'hui de musique contemporaine, si ce répertoire est vaste et si surtout il est vaste pour un virtuose soviétique qui joue évidemment beaucoup de musique russe.
Виолончель, я буду короткими фразами говорить, но очень. Мне кажется, что виолончель за последние десятилетия, несколько десятилетий 20 века сделала огромный шаг вперед на пути к завоеванию большой концертной эстрады.
Monsieur Rostropovitch estime que le violoncelle dans les dernières dizaines d'années a fait d'énormes progrès dans le chemin de la conquête des estrades mondiales.
И, конечно, мы, я имею в виду и себя, сравнительно молодые, но уже лысые солдаты виолончельной армии благодарны нашим виолончельным генералам.
Et bien sûr, nous autres, soldats bien qu'un peu chauves de cette armée de violoncelle, nous sommes très reconnaissants à nos généraux de violoncelle.
Среди генералов виолончели мне прежде всего хочется назвать таких, как Пабло Казальс, Морис Марешаль, Пятигорский, Гаспар Кассадо и другие виолончелисты.
Voilà les violoncellistes et les autres que Monsieur Rostropovitch voudrait citer comme généraux de violoncelle.
Mais je crois que Monsieur Rostropovitch est lui-même un général.
Нет, я солдат. Я солдат, скажите, но есть такая поговорка русская: плох тот солдат, который не хочет стать генералом.
Monsieur Rostropovitch estime qu'il est un soldat, mais il y a un proverbe russe qui dit le soldat est très mauvais s'il ne veut pas devenir général.
Bon, donc on ne sait pas très bien s'il vaut mieux être soldat ou général. Mais je voudrais revenir sur cette question de répertoire. Les compositeurs soviétiques actuellement écrivent-ils beaucoup d'œuvres pour le violoncelle et spécialement pour M. Ростропович?
Вернемся к вопросу.
Да, вот я хочу именно продолжить ответ на этот вопрос. Дело в том, что вот эти виолончелисты, которых я назвал, они первые проложили путь новому репертуару для виолончели.
Monsieur Ростропович voudrait justement continuer cet entretien sur le répertoire oui. du violoncelle. Et les violoncellistes que Monsieur Ростропович a cités ont frayé un chemin nouveau, ont ouvert un chemin nouveau au répertoire du violoncelle.
Нельзя, например, я не могу не назвать моих любимых концертов, которые я с удовольствием играю. Это концерт Оннегера и концерт Мио, которые написаны специально для Маршаля.
Par exemple, M. Ростропович ne peut pas ne pas citer le concert de
Darius Milhaud
et d'Arthur Honegger qui ont été écrits pour Maurice Maréchal.
Et je crois que Шостакович a écrit pour vous un concerto pour violoncelle.
Шостакович a écrit le concert.
Да, и Прокофьев написал симфонию концерт тоже, так сказать, для меня.
Et Prokofiev également a écrit
oui.
une symphonie.
Mais Prokofiev a commencé par écrire un concerto pour violoncelle lorsqu'il était à Paris, et ce concerto est devenu une symphonie concertante quelque temps après. Il a modifié l'orchestration. Mais je crois que c'est vous qui avez fait la création de la nouvelle version de cette œuvre en Russie.
Да, Прокофьев сначала написал симфонию, а потом концерт, а потом переделал это уже будучи в Париже в симфонию-концерт. Но кажется,
только не будучи в Париже, это будучи в Москве он сделал.
C'était quand, lorsqu'il était encore à Moscou.
Он написал oui. виолончельный концерт опус 58, по-моему.
C'est l'opus 58.
C'est l'opus 58. L'opus 58 est un concerto écrit à Paris.
Да, это верно. Это
Paris,
правильно.
В Париже написано.
А потом я играл этот концерт в малом зале консерватории с фортепиано.
Ensuite, M. Ростропович a joué ce concert dans la petite salle du conservatoire.
Et Prokofiev был на этом концерте.
Et Prokofiev a assisté à ce concert.
Est-ce que M. Ростропович peut nous parler du concertino pour violoncelle qu'il a vient de jouer à Paris récemment et qui est une œuvre qu'on n'avait jamais entendue en France?
Могу сказать. Прокофьев начал это писать после исполнения симфонии концерта в Советском Союзе.
Prokofiev a commencé à composer ce concertino après l'exécution de la symphonie concertante à Paris,
Moscou. Non, à Moscou, oui.
Prokofiev мне сказал, когда я к нему пришел, что он хочет написать что-нибудь легкое для виолончели.
Et lorsque M. Ростропович a rencontré Prokofiev, celui-ci lui a confié qu'il voudrait écrire quelque chose de léger pour le violoncelle.
Смеясь, он мне сказал, что он хочет написать такое сочинение, которое мог бы играть в самом глухом провинциальном городе вместе с оркестром местной пожарной команды.
En riant, il a dit qu'il voudrait écrire une œuvre telle qu'elle puisse être exécutée dans la province la plus obscure avec comme orchestre la troupe locale des sapeurs-pompiers.
Donc une œuvre facile, mais pourtant cette œuvre que j'ai entendue n'a pas l'air si facile, surtout pour la partie de violoncelle.
Да, значит, он хотел написать легкую вещь, но...
Да, хотел, но у него это не очень вышло.
Oui, il a voulu écrire quelque chose de facile, mais c'est pas exactement ce qu'il a pu faire, ce qu'il a réussi oui. à
да,
faire.
Это не очень легко
au point de vue, surtout violoncelle.
Oui. oui, mais l'œuvre n'a pas été terminée par lui. Il est mort avant de la terminer.
Но не была окончена
да,
им.
Да, он умер, и это его последний опус, который он оставил почти законченным.
Oui, il est mort avant, et c'est sa dernière œuvre qu'il a laissée presque achevée. Да.
Никем не написаны лишние ноты, все темы, весь материал написан лично Прокофьевым.
En tout cas, ça n'a pas été modifié au point de vue musique, il n'y a pas une seule note qui a été rajoutée par quelqu'un d'autre. Tout au point de vue musique a été composé par Прокофьев.
Mais je crois que c'est Кабалевский qui a fait l'orchestration.
В клавире у Прокофьева были обозначены многие инструменты, но не все. Оркестра.
Il avait déjà eu le temps de noter plusieurs instruments de l'orchestre, mais pas tous.
Ah oui, c'est quand même Кабалевский qui a terminé.
Да.
Il y a eu aussi à la même époque le concertino pour deux pianos qui était dans le même cas.
Да, но для двух роялей у него почти нету материала, очень мало написано. Поэтому закончить его не представляется возможным.
Oui, mais comme il y a très peu de matériel, déjà, comme il y a très peu de choses de composer, il
est
presque impossible de le terminer.
Il n'a jamais été joué.
И никогда, конечно, не играли его.
Нет, и невозможно
jamais
его сыграть.
Jamais été joué.
В это же время он начал писать сонату для виолончели соло. Да, им написана экспозиция первой части, с моей точки зрения, совершенно гениальная.
Et l'exposition du premier mouvement est déjà complètement achevée au point de vue de M. Rostropovitch.
Mais,
c'est absolument génial.
Ah oui, mais le concertino que nous avons entendu, c'est M. Rostropovitch qui en a fait la création en Russie.
Oui.
Et je crois que vous avez aussi, avant que l'œuvre soit terminée, vous avez parlé avec Prokofiev de cette œuvre et vous a demandé beaucoup de conseils pour l'écriture.
Я три года жил у Прокофьева на даче летом. Он меня приглашал к себе.
Trois ans de suite, M. Rostropovitch a vécu chez Prokofiev dans sa maison de campagne en été.
И поэтому вот те сочинения, начиная с виолончельной сонаты.
Si bien que toutes les œuvres, à partir de la sonate pour violoncelle et piano,
потом symphonie et concert.
La symphonie concertante.
Потом concertina.
Le concertino exécuté à Paris.
И затем начало соло сонаты.
Et le début de
соло
сонат. Да, violoncelle seule.
Это все он писал, потому что я у него сидел на шее.
Il l'a composé parce que Monsieur Rostropovitch était derrière dans son dos à l'obliger plus ou moins.
Mais pourquoi Prokofiev travaillait énormément? Il composait beaucoup d'œuvres en même temps, je crois.
Да, но не очень последнее время не так много времени, потому что он болел.
Pas tellement les derniers temps parce qu'il était très malade.
Oui, mais vous avez connu Prokofiev vers quelles années?
Мы с ним знакомы были приблизительно в 46-го года.
À partir de 46.
Но близко с ним сошлись после 48-го.
Mais ils ont lié vraiment connaissance et ils se sont liés d'amitié à partir de 48.
Et vers les dernières années de sa vie, est-ce qu'il continuait à avoir une activité de musicien ou bien est-ce que vraiment sa maladie l'avait beaucoup touché?
Он старался не работать по вечерам, хотя это ему не всегда удавалось.
Il essayait en tout cas de ne pas travailler le soir. Bien que ce n'était pas toujours possible.
Но все-таки работал очень много.
Mais il travaillait tout de même énormément.
Oui, et il suivait l'actualité de la musique, les activités des concerts.
Он следил за актуальностью музыки и концертов.
Очень, да.
Maintenant, nous allons un peu parler aussi de cette actualité. Je voudrais que M. Rostropovitch nous dise comment se présentent les courants nouveaux de la musique actuellement en Union soviétique parmi les jeunes compositeurs. Quels sont les compositeurs les plus en vue? Quelles sont les esthétiques adoptées par ces compositeurs?
Я хочу сказать, что музыка должна отражать жизнь.
La musique doit refléter la vie.
Жизнь у нас очень сложная вообще в мире, в 20 веке, во всем мире. Жизнь очень сложная.
La vie est très compliquée au 20e siècle.
И поэтому музыка должна быть тоже очень сложной.
Par conséquent, la musique aussi doit être très compliquée, très complexe.
Я не люблю музыки, которая облегчает то впечатление от жизни, которое у нас имеется.
Et Monsieur Rostropovitch n'aime pas une musique qui simplifierait l'impression qu'on peut avoir de notre vie du 20e siècle.
Поэтому меня тянет к сложной музыке 20-го века.
C'est pourquoi il est attiré par une musique complexe du 20e siècle.
И я думаю, что сложная музыка, так сказать, пойдет сильно вперед. И в Советском Союзе она идет сильно вперед.
Il pense que la musique complexe est appelée à faire de grands progrès, et surtout en Russie.
Среди молодых композиторов, которых мне бы хотелось назвать, в первую очередь я бы хотел назвать такого композитора Бориса Чайковского.
Parmi les compositeurs de musique contemporaine, il voudrait surtout citer Борис Чайковский.
Он как раз сейчас недавно закончил квартет и пишет концерт для виолончели.
Il vient de terminer un quatuor et il est en train de composer un concerto pour violoncelle.
Есть совсем молодой один композитор. Он студент, он аспирант Ленинградской консерватории у Шостаковича.
Я aussi un tout jeune élève au conservatoire de Leningrad, élève de Shostakovich.
Он еще даже в Советском Союзе не имеет имени громкого.
Il n'a même pas de nom, même en Russie.
Его зовут Борис Тищенко.
Il s'appelle Boris Tishchenko.
Но я считаю, что это композитор с огромным будущим.
Mais Monsieur Rostropovitch estime que c'est un compositeur qui est appelé à avoir un grand avenir.
Я знаю его фортепианный концерт, его цикл романсов.
Il connaît déjà ses concertos pour piano et son cycle de romances.
Это уже сейчас на уровне самых лучших вещей, которые я знаю.
Parmi les meilleures œuvres qui existent actuellement.
Ему 24 года.
Il a 24 ans.
Моисей Вайнберг очень талантливый композитор.
Моисей Вайнберг est aussi un compositeur de très grand talent.
Est-ce que ce compositeur accepte l'influence occidentale? Pas seulement français, français ou allemand ou italien, enfin...
Западных композиторов.
Во всяком случае, эти композиторы, которых я назвал, очень хорошо знают и музыку современную всю, и очень хорошо знают опыты, которые проводятся и по системе додекафонии, и по системе электронной
музыки.
En
tout cas, ces compositeurs que M. Rostropovitch vient de nommer connaissent, sont évidemment au courant de tout ce qui se fait en Occident, et au point de vue recherche, au point de vue expérience, et au point de vue œuvre composée d'actualité.
Oui, mais justement, moi j'étais très frappé par le fait que M. Rostropovitch a dit tout à l'heure que notre époque étant complexe, eh bien la musique qui s'adaptait à notre époque était aussi une musique complexe. Étant donné qu'une des musiques quand même les plus complexes de ce siècle, c'est la musique qui est issue de Schoenberg, je voudrais savoir si M. Rostropovitch pense que l'école de Schoenberg actuelle est une des écoles les plus représentatives de notre époque.
Я могу сказать о том, что, например, я не буду говорить о Schoenberge как композиторе, но я скажу, что одними из моих самых любимых композиторов являются Альбан Берг, Белла Барток, Хиндемит, Стравинский, Бриттен, Шостакович, Прокофьев. Это вот, мне кажется, достаточно сложные композиторы.
Monsieur Rostropovitch n'aimerait pas parler de la musique de Schoenberg, surtout en tant que compositeur, mais il pense que les auteurs qu'il vient, le compositeur qu'il vient de nommer, sont assez représentatifs d'une vie et d'une musique complexe.
Bien qu'ils soient tous très différents les uns des autres.
Несмотря на то, что они достаточно различны между собой.
Да, совершенно верно. Но жизнь многообразна.
Mais la vie est aussi très variée,
она
très différente.
Просто, да, она не просто сложна, она и многообразна.
Elle n'est pas seulement complexe, elle est très variée.
Я думаю, что трудно найти такого одного композитора, который выразил бы все стороны нашей жизни.
Il est très difficile de trouver un compositeur qui pourrait refléter tous les côtés de notre vie.
Каждый переживает то, что он замечает.
Chacun traduit à sa façon ce qu'il vit et ce qui lui est proche.
Il y a eu, je crois, pendant longtemps une hostilité en Union soviétique par rapport à l'école de Schoenberg et aux musiques dites trop complexes. Est-ce que cette hostilité a disparu ou est-ce qu'elle se poursuit toujours?
Я скажу так, что музыка, может быть, с моей точки зрения, современная музыка может быть всякой. Она может быть атональной, она может быть по системе Шенберга 12-тонной. Скажи, я считаю, что такая музыка тоже может быть.
D'après M. Rostropovitch, la musique a le droit de prendre toutes les formes. Elle peut être atonale.
Атональ, додекафоник, да. Но мне кажется, что музыка всегда должна быть что-то выражать. И главное быть экспрессивной, с экспрессией и темпераментом.
Mais de toute façon, la musique doit toujours exprimer quelque chose. Elle doit contenir une expression et un tempérament.
Да. Она должна вызывать ответные чувства у человека, который слушает.
Elle doit provoquer une émotion en retour chez l'auditeur qui...
Причем эти чувства ответные не должны быть только, скажем, радостью или только горем. Это могут быть и ужасные звуки, которые вызовут, скажем, у слушателя какое-то ощущение ужаса, отвращения, может быть. Это тоже музыка.
Bien que ces émotions ne doivent pas être forcément la joie ou le bonheur, ça peuvent être aussi des émotions de terreur.
Но все хорошо вовремя в музыке.
Tout est bien quand c'est venu au point nommé. Quand c'est au bon moment. En musique, c'est comme ça.
И поэтому мне кажется, что... Так же, как и в картинах, так же, как и в живописи. Мне кажется, что все можно применять в живописи.
Si bien que de même qu'en peinture on peut utiliser n'importe quoi.
Нет плохих приемов в живописи.
Il n'y a pas de mauvaise manière d'interpréter.
Да. Но есть подходящие и неподходящие.
Mais
в данном случае.
Mais il y a des manières adéquates et les autres.
В данном случае.
Ce n'est pas une question de moyens, ça. C'est pas une question de technique.
Вопрос не в технике.
Вопрос не в технике, да.
Exactement.
Да. Что любой техникой, мне кажется, человек талантливый должен найти ту технику, которую ему легче выразить свои эмоции.
Un homme qui a du talent doit trouver la technique qui lui permet le mieux d'exprimer ses émotions.
К примеру, я очень люблю Бенджамина Бриттена.
Par exemple, monsieur Rostropovitch aime beaucoup Бриттен.
Бенджамин Бриттен.
Et les dernières œuvres de Бриттен sont dodécaphoniques.
12
Не все, не все, не все.
Но и commence à prendre cette voie.
Но начинает идти по этой уже дороге.
Вы знаете, я знаю его сочинения такие, как «Ноктюрн». Это одно из последних его сочинений.
Oui,
как «Соната для виолончели». Я знаю такие его оперы, как «Turn of the Screw», скажем, и другие сочинения. Там есть элементы 12-тонной системы, но нельзя сказать, что это все было атонально. élément qui devient artiste.
Oui.
Dodecaphonique, élément dodecaphonique.
Il y a quelques éléments, mais pas l'entier.
Mais je crois que Britten écrit actuellement pour M. Rostropovitch un concerto pour violoncelle.
Britten вам как раз пишет концерто для
violoncelle. Il sera dodecaphonique.
Да. Какой он будет? 12...
Я знаю только одно, что он будет наверняка замечательный.
И на sait qu'une seule chose, qui sera sûrement très beau.
И поэтому мне абсолютно все равно, будет он додекафоник или не будет.
Pour cela, ça lui est complètement égal de savoir comment il sera.
Мне кажется, что в музыке часто споры о музыке современной делаются абстрактными.
Il semble, Monsieur Rostropovitch, que la plupart des discussions et des disputes au sujet de la musique deviennent abstraites, sans fondement.
Sans raison.
Мне совершенно не важно, как она будет называться. Додекафонный, двенадцатитонный.
Ça lui est complètement égal de savoir comment ça va s'appeler, додекафонique, атонал, ou n'importe
quoi. Мне важно, чтобы через эту музыку я мог взволновать публику.
Ce qui lui importe, c'est qu'à travers cette musique, il puisse apporter une émotion à son public.
Oui, mais si le public ne comprend pas une œuvre, est-ce que le public a forcément raison ou ne peut-il pas se tromper aussi?
Я был свидетелем многих интересных вещей.
Oui, M. Rostropovitch a été témoin de plusieurs choses intéressantes.
Бывают случаи, когда публика не понимает совершенно произведение.
Il arrive que le public ne comprenne absolument pas une œuvre.
Но если это произведение талантливое,
mais si cette œuvre est de talent,
то публика это ощущает, даже не понимая сочинения.
Le public, même sans le comprendre, le sent.
Если у них нет специального противодействия против данного,
s'ils ne sont pas, s'ils ne sont pas spécialement prévenus contre un compositeur donné.
И люди честные из публики мне говорят, что мы этого не поняли, но мы чувствуем, что это что-то важное и значительное.
Et les gens honnêtes parmi le public avouent qu'ils n'ont rien compris, mais qu'ils sentent qu'il y a quelque chose d'important dans cette œuvre.
Так что к публике можно найти путь.
C'est bien qu'on peut toujours trouver un chemin vers qui conduise au public, qui touche le public.
И, конечно, я недаром сказал, что мы вот я сказал о виолончелистах, что мы солдаты. Я считаю, что в 20 веке все музыканты должны быть солдатами.
Et ce n'est pas sans raison qu'au début de cet entretien, Monsieur Rostropovitch a appelé les violoncellistes des soldats parce que il estime que tout musicien doit se considérer comme un soldat.
Да.
Et Monsieur Rostropovitch joue des œuvres modernes. En joue-t-il non seulement en Russie, mais également dans ses tournées à l'étranger? Il me répondra probablement oui, puisqu'il a joué le concerto pour violoncelle de Prokofiev à Paris plusieurs fois. Mais à part les œuvres de Prokofiev, qui sont tout à fait acceptées par le public, est-ce que M. Rostropovitch joue des œuvres plus difficiles, peut-être?
Bien sûr.
Oui, à Paris, il joue pour la troisième fois.
Поэтому один раз я сыграл Прокофьева симфонию концерт, другой раз Шостакович
концерт,
да, и сейчас концертино Прокофьева. Да, потому что мне хочется познакомить парижан с той музыкой, которая у нас уже считается классической.
Oui, il voudrait surtout faire connaître aux Parisiens la musique qui déjà chez eux passe pour classique.
Ну, я очень надеюсь и очень хотел бы думать, что если моя игра не будет противна парижанам, и я еще приеду, я обязательно познакомлю их с сочинениями других композиторов.
Oui, mais monsieur Rostropovitch espère beaucoup que si les Parisiens veulent bien de sa musique, il aura l'occasion encore de venir ici souvent et de leur jouer des œuvres moins connues.
Oui, vous pouvez dire à monsieur Rostropovitch que nous aimerions, et j'espère que je me fais un peu l'avocat de beaucoup de mélomanes parisiens, nous aimerions entendre monsieur Rostropovitch nous jouer des œuvres de jeunes musiciens soviétiques que nous ne connaissons pas.
Господин думает, что он передаст только желание всех французских меломанов вас попрося, чтобы вы приехали играть современных, совсем молодых и неизвестных композиторов.
Я обязательно это сделаю.
Il le fera sans faute.
Eh bien, nous souhaitons maintenant donc revoir très bientôt M. Rostropovitch à Paris dans un répertoire varié, parce que nous aimons bien aussi l'entendre jouer le concerto de Schumann ou le concerto de Dvorak, mais nous aimerons aussi l'entendre dans des œuvres soviétiques que nous ne connaissons pas. Et je remercie beaucoup M. Rostropovitch d'avoir bien voulu répondre à ces quelques questions à l'occasion de son passage à Paris. Ainsi s'achève la tribune de la musique vivante. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons rencontré aujourd'hui tour à tour Samson François et le violoncelliste Tislav Rostropovitch.
Tribune de la musique vivante. C'était une émission de Claude Samuel avec aujourd'hui la participation de Mislav Rostropovitch et Samson François. Assistante Micheline Arnoux.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 6 janvier 1963.